Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Mais avant de foncer tout droit vers le futur, il faut que je revienne très rapidement sur le dernier épisode, l'épisode 30 avec Jean Massier. Puisque en fin d'épisode, vous avez entendu une petite musique qui accompagnait le très beau vœu qu'il a formulé, je vais y revenir. Eh bien cette musique, je dois vous le préciser, il s'agit quand même d'un extrait d'un concert de John Zorn avec son trio Masada, un enregistrement qui date de 1999 au Festival de Jazz de Varsovie, en Pologne. Un concert sublime, n'hésitez pas à aller l'écouter, vous le trouverez dans son intégralité sur YouTube. Et puis donc, cette musique accompagnait le vœu de Jean Massier, un vœu consacré aux femmes. Je ne pouvais rêver d'une plus belle transition pour ce nouvel épisode avec ma nouvelle invitée. Et avant de vous en dire plus, il est important que je vous lise un extrait de texte. Les rapports entre la classe, la race et le genre d'une part, et d'autre part la mémoire du sexe, du cinéma et de modes de vie alternatifs jadis tenus pour prometteurs, doivent nous rappeler que le féminisme a été à un moment générateur de pensées nouvelles et de nouveaux modes d'existence. À l'heure où certaines certitudes économiques se trouvent bouleversées, le moment est venu de remettre en question des modes de comportement prétendument naturels. Si le féminisme profite de cette opportunité pour secouer le joug impérialiste et consumériste qui le maintient captif, il pourrait de nouveau placer ses exigences politiques de transformation essentielles au centre de la scène et sortir, enfin et pour de bon, de l'unidimensionnalité. Cet extrait est issu du livre « La femme unidimensionnelle », un livre écrit par Nina Power. Ce livre m'a beaucoup marqué lorsqu'il est sorti en 2010 en français. Nina Power, c'est une enseignante de philosophie aux États-Unis. Et donc j'avais forcément ces mots en tête lorsque j'ai rencontré mon invitée de la semaine, Rebecca Amselem. Elle a fondé la newsletter Les Glorieuses, elle va vous en parler. Donc je vous laisse profiter pleinement de cette conversation. Bonne écoute. Le futur commence ici et maintenant.
Bonjour
Rebecca.
Ouais. Voilà, c'est le premier truc drôle de cet épisode. C'est rare que deux Rebecca se rencontrent quand même.
Ouais, je pense que ça a dû m'arriver une fois dans ma vie avant. Ouais.
Moi, quand j'étais petite en école primaire, il y avait une petite Rebecca.
Ah ouais, classe, vous étiez deux quoi.
Ça, c'est pas vrai. Rebecca la brune et la métisse, c'était moi et petite Rebecca qui était blonde. C'était Rebecca la brune et Rebecca la brune.
C'est marrant.
Alors, je suis ravie vraiment de te rencontrer pour cet épisode de Hashtag 2050, le podcast. Et tu as choisi un endroit pour me recevoir. Nous sommes dans tes bureaux. Est-ce que tu peux m'en parler, oui, s'il te plaît?
Bah oui, absolument. Donc, je suis arrivée dans ces bureaux, c'était en début de cette année, 2017, à la suite d'une rencontre incroyable que j'ai eue avec une femme, Christelle Delarue, qui a créé son agence de publicité féministe qui s'appelle Mad & Woman, qui est du coup une agence de publicité qui vraiment casse les stéréotypes sur les femmes. Et on sait qu'il y en a besoin dans le monde de la publicité.
Oui, sacrément.
Ouais. Et extrêmement généreusement, elle m'a proposé d'incuber l'organisation des Glorieuses et d'aider à le développer. Et ça impliquait le fait qu'elle elle me propose d'avoir mes bureaux dans ses propres locaux.
D'accord. Donc, les Glorieuses sont installées ici. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que sont ces Glorieuses, les Glorieuses?
Oui, bien sûr. C'est une newsletter à la fois culturelle et féministe que j'ai lancée en septembre 2015 avec pour premier objectif, ce serait de déculpabiliser les femmes sur un certain nombre de sujets, sur des sujets aussi généraux que la politique, que le travail, que l'amour, etc. Et toujours avec un angle assez littéraire en fait, ou assez culturel en fait en manière générale. Je vais toujours invoquer des auteurs, dans la très très grande majorité des femmes, des artistes, des films, etc. Pour, et ça c'est un peu l'objectif inhérent que j'ai avec ce projet, c'est finalement de créer un nouvel imaginaire collectif tourné vers et pour les femmes.
Et c'est vrai que moi je suis abonnée depuis quelques semaines ou quelques mois à cette newsletter et c'est vraiment très inspirant parce que justement c'est une autre écriture, d'autres textes que l'on découvre et qui, je trouve, ouvre les horizons et les perspectives sur voilà, une autre façon d'aborder les questions liées à la femme, son corps, sa vie.
Bah, c'est vraiment, en tout cas, c'était vraiment bien. Donc, je suis très contente que tu aies perçu cette dimension de la newsletter. Et oui, aujourd'hui, on a 70 000 abonnés, essentiellement des femmes francophones qui viennent de France, mais aussi qui sont basées un peu partout dans le monde. Donc, c'est assez chouette. Et en parallèle, on fait aussi un certain nombre d'actions politiques. On s'engage énormément contre le Front National, forcément, en disant que c'est pas parce que c'est un parti qui a à la tête... une femme, que c'est nécessairement un parti qui se bat pour les droits des femmes, et au contraire, c'est un parti qui est extrêmement dangereux pour les droits des femmes. On s'est aussi battu pour l'égalité salariale, donc en dénonçant l'inégalité salariale avec le mouvement du 7 novembre 16h34, pour vraiment inciter les femmes et les hommes à se saisir de cette question-là.
Oui, pour le préciser, hein, c'était ce jour-là, à 7h-là, que finalement les femmes devraient s'arrêter de travailler pour, par rapport... Je m'explique très très mal.
Mais en fait, c'est vrai que c'était pas facile de l'expliquer, mais c'était en gros une date symbolique qui permettait de comprendre le moment où les femmes s'arrêtaient ou devraient s'arrêter de travailler si elles étaient payées autant que les hommes. Voilà. Donc finalement, pour gagner ce qu'elles gagnaient, elles pouvaient s'arrêter le 7 novembre et puis le reste de l'année, on chill et pas besoin de faire quoi que ce soit.
Donc c'est une action symbolique mais importante.
Ouais. Et puis, mais si on fait un certain nombre d'organisations, d'événements qui sont symboliques avec toujours pour objectif de sensibiliser. On a fait aussi une plateforme pour les présidentielles qui s'appelle Les Femmes ont le pouvoir, dans laquelle on a analysé tout ce que les candidats avaient fait précédemment pour ou contre les droits des femmes. En sous-entendant notamment que... c'est le meilleur moyen de comprendre si un ou une candidate est féministe, c'est quand on voit ce qu'il a fait, ce qu'il fait en tout cas, ou ce qu'elle fait quand il ou elle a le pouvoir entre ses mains. Et là, plus récemment, on a aussi mené une action sur le Musée de l'Homme à Paris, qui est place du Trocadéro, donc qui est un musée d'histoire naturelle, entre autres. Et notre action était de demander, on n'a pas terminé d'ailleurs, j'espère vraiment qu'on va y arriver, de changer le nom du Musée de l'Homme en Musée de l'Humanité. Parce que finalement, c'est et pour tout un tas de raisons, des raisons déjà grammaticales, l'homme avec un grand H n'a jamais signifié femme et homme. Ça a commencé à, en tout cas dans l'imaginaire collectif, on a pu croire que ça rassemblait les femmes et les hommes uniquement à partir du XVIIIe siècle. Mais il n'y a aucun fondement grammatical. Finalement, homme avec un grand H, ça veut dire le genre homo. Donc c'est bien plus large que les humains. Ça n'a rien à voir avec les femmes et les hommes.
Et puis ce combat pour le choix des mots aussi, on en a entendu parler tout récemment avec le Panthéon. Simone Veil, malheureusement, est morte et il y a une mobilisation pour qu'elle rejoigne le Panthéon sur lequel est écrit aux grands hommes.
La patrie reconnaissante. On aimerait bien changer ça aux grandes personnes, la patrie reconnaissante. Ouais. Je pense qu'il y a un tas de mots qui sont possibles pour un peu mettre à jour cet adage.
Alors pourquoi es-tu venue justement à créer Les Glorieuses ? Tu as fait des études sur ces questions-là, de la place de la femme, ou c'est vraiment un intérêt personnel qui est né au fil des ans ?
Je pense que c'est un intérêt culturel déjà dans un premier temps. Je pense que je me suis familiarisée aux questions féministes et aux questions des droits des femmes via des livres. On le voit derrière, il y a pas mal de bouquins où effectivement il y a des héroïnes qui sont fortes, qui sont écrites par des femmes ou par des hommes d'ailleurs, peu importe. Mais c'est un peu grâce à tous ces livres que je me suis dit que finalement, si jamais moi, et puis d'ailleurs pas que moi, mais si jamais les femmes peuvent ressentir une frustration dans cette société, c'est que finalement on vit dans une société où les règles n'ont pas été créées par nous et des règles qu'on ne connaît pas vraiment. Donc en fait, on navigue un peu à l'aveugle. Et c'est peut-être là que vient cette frustration et finalement la volonté, à mon avis, c'est une volonté qui anime énormément d'activistes féministes, qui est de dire que et si jamais on changeait ces règles-là pour qu'elles soient plus favorables aux femmes.
Alors, le féminisme, aujourd'hui, en 2017, quel regard portes-tu sur... je ne sais pas si c'est sur ce concept, ce mouvement, parce qu'il est aussi protéiforme. Donc, quel regard as-tu aujourd'hui?
Je pense que tu as utiliser le mot le plus parfait pour décrire les féminismes aujourd'hui, c'est le terme de protéiforme. J'ai coutume de dire qu'il y a vraiment autant de féminisme qu'il existe de femmes aujourd'hui. Et je pense qu'on pourrait peut-être tenter une définition en disant que c'est le fait de vivre sa condition de femme d'une certaine manière. Et c'est surtout le fait de respecter les femmes dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles croient, dans ce qu'elles ressentent de manière générale. Donc c'est vraiment une question de respect. Ouais. Les féminismes.
Alors, j'ai pu rencontrer des femmes qui, justement, ne voulaient pas se revendiquer du féminisme comme un certain rejet, parce que, à ce mot, on associe des images, les fémaines, un activisme un peu qui est ressenti pour certaines femmes comme violent. Comment tu arrives, justement, ces femmes-là à leur expliquer que le féminisme, finalement, enfin. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'en tant que femme, on ne peut être que féministe.
Ça paraît logique, hein. Bah oui, surtout que quand on sait que le féminisme, c'est rien de plus qu'un combat pour atteindre une égalité entre les femmes et les hommes, ça paraît assez, assez simple de penser ça, en tout cas. Mais en fait, je me suis beaucoup intéressée à cette question-là, justement, ces derniers temps. Et il y a une femme qui m'a donné une réponse que je trouve extrêmement intéressante. C'est Mathilde Larère, historienne, que j'ai d'ailleurs découvert dans le podcast de Lorraine Bastide, Les Savantes sur France Inter, et que j'ai eu la chance de croiser sur un plateau il n'y a pas très longtemps. Et je lui ai posé la question, comment ça se fait qu'effectivement il y a des femmes qui ne se revendiquent pas féministes? Et comment ça se fait qu'il y a des hommes non plus qui ne se revendiquent pas féministes? Enfin, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont contre une égalité entre les femmes et les hommes? Et ce qu'elle m'expliquait, c'était que dès le début de l'emploi du terme féministe et le début de l'activisme féministe qui datait de la Révolution française dans l'hémicycle, il y a eu des groupes qui portait ce mouvement en diffamation, en disant que les féministes étaient frustrées, que les féministes voulaient faire je ne sais quoi aux hommes. Et donc finalement, il y a eu un mouvement dès le début, misogyne finalement, qui avait pour objectif de délégitimer les combats féministes dans cette assemblée.
Ouais. Et puis, est-ce que je sais qu'un peu, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'histoire de l'anarchisme, mais il y a aussi des femmes qui ont été des porte-voix, qui ont été des activistes fortes de l'anarchisme, et peut-être aussi l'association entre le féminisme et une certaine combat contre un modèle sociétal très hiérarchisé. C'est peut-être aussi ces associations.
Je pense aussi, ça doit en faire partie, absolument.
Ouais. Alors, si on se projette dans 33 ans, en 2050, alors je ne sais pas quel âge tu auras à peu près.
Wow, le calcul, quoi. J'aurai 61 ans.
61 ans, tu seras beaucoup plus jeune que moi. exercice qui est toujours complexe de la prospective. Dans 30 ans, dans 33 ans, comment imagines-tu, ou espères-tu, rêves-tu, ou tu peux être très réaliste et pessimiste, c'est à toi de voir, les mouvements féministes en 2050? Est-ce que les combats seront gagnés et on en parlera uniquement dans les livres d'histoire? Est-ce que les combats auront changé?
Déjà, si j'aime mon impart dans les livres d'histoire, ce sera une victoire, parce qu'il n'y a que les gagnants qui sont enseignés dans les livres d'histoire. Comment est-ce que je vois le féminisme en 2050? Je pense qu'au fond de moi, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de féminisme en 2050. Je pense qu'on aura atteint une égalité pour toutes les femmes et pas que les femmes blanches issues d'un certain milieu social.
Le féminisme intersectionnel, je pense que c'est important.
Et effectivement, donc j'espère qu'on aura gagné ce combat, qu'on n'aura plus besoin d'être féministe, ça c'est vraiment mon souhait finalement le plus profond. Après, si jamais on voit là où on en était il y a 33 ans et là où on en est aujourd'hui, j'espère qu'on aura quand même un petit peu plus avancé, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait justement être les leviers pour avancer, faire des avancées qui soit extrêmement forte. Est-ce que ces leviers doivent être législatifs, politiques, ou est-ce qu'ils doivent être naître dans la société civile, par des mouvements citoyens beaucoup plus larges?
En fait, je pense que c'est un tout. C'est vraiment pas contradictoire le fait que il y ait des mouvements politiques, qu'il y ait des mouvements entrepreneuriaux, qu'il y ait des mouvements sociétaux pour une même cause. Bien au contraire, je pense que plus on est nombreuses et plus on aura de chance, en tout cas, d'arriver au bout de ce combat. Mais j'y pensais il n'y a pas très longtemps et je me disais quelle est la plus grande arme que les femmes et que les féministes ont pour arriver à ce combat. Je pense que la plus grande arme, c'est nous-mêmes. On représente la majorité de la population, on représente 52%. Et finalement, quand je dis que c'est nous-mêmes, c'est même plus que ça, c'est la sororité. C'est le fait de s'entraider, fait que toutes les femmes, on est des sœurs, on est toutes des sœurs. On vit des galères qui sont différentes en fonction de notre échelle sociale, en fonction de notre milieu social, en fonction de notre religion, de notre couleur de peau. Et je pense que si jamais on commence à respecter et on commence déjà à accepter le fait qu'il y ait ces différences-là et à s'entraider, je pense que c'est grâce à ça qu'on va y arriver. La sororité, c'est vraiment l'arme la plus forte que les femmes ont. Et il faut que les femmes s'entraident.
Et alors, je ne sais pas, parmi tes 70 000 abonnés, s'il y a beaucoup d'hommes, est-ce que tu as cette information
dans... Oui, j'ai cette info. Ouais. J'ai, alors, je ne connais pas la proportion exacte, mais c'est à peu près entre 10 et 15%. D'accord.
Alors, est-ce que justement, un des leviers aussi, ce ne serait pas que... je souhaite une très longue vie à la newsletter Les Glorieuses, mais que très vite, il y ait beaucoup plus de monde, et 50% d'hommes aussi, peut-être, parce que est-ce qu'un des leviers du féminisme, c'est pas aussi de gagner le fait que les hommes se revendiquent haut et fort, beaucoup plus féministes?
Alors, moi, je fais partie de celles qui pensent que les hommes sont des alliés des féministes, avec grand plaisir. Et effectivement, j'ai coutume de dire qu'on ne gagne pas un match avec la moitié de l'équipe. Mais le féminisme reste un combat des femmes. Et des femmes se revendiquent féministes et les hommes peuvent être nos alliés. De la même manière que dans les autres combats, par exemple, les blancs peuvent être des alliés de la cause noire. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même à différencier. Mais effectivement, je pense que le fait que les hommes soient davantage aujourd'hui sensibilisés à la cause des femmes, et je pense que d'ailleurs les hommes n'ont jamais été autant sensibilisés à la cause des femmes qu'aujourd'hui, et en ça c'est extrêmement positif. Ça va être extrêmement important, et je pense que ça va être extrêmement important pour une chose, tu parlais tout à l'heure de 2050, si jamais on arrive à cette société égalitaire finalement entre les femmes et les hommes, c'est parce qu'aujourd'hui on a commencé d'ores et déjà à élever des enfants féministes et avec des cultures féministes. En fait, ça ne peut passer que par ça.
Alors, l'éducation, c'est un véritable enjeu parce que j'ai le plaisir d'être maman, ce qui est épuisant.
J'imagine.
Aussi pour le père. Et je suis consciente, et j'espère que c'est déjà un premier pas, de tout ce que l'on peut charrier d'inconscient, d'habitude, de facilité aussi culturelle à ce que l'on trouve dans la société autour, partout autour de nous. Le risque est énorme d'amener des biais comme ça qui sectorisent, qui mettent de côté la petite fille, qui lui enjoignent des centres d'intérêt, une façon de parler, alors que le garçon, on va lui enjoindre justement une autre façon d'être au monde. Donc c'est complexe, c'est compliqué.
J'avais vu un super discours, je me souviens plus du nom de la femme qui l'avait fait, mais c'était il faudrait qu'on commence à enseigner à nos filles d'être courageuses. Et de se battre pour ce courage aussi. Et effectivement, si c'est extrêmement naturel d'adjoindre l'adjectif courageux aux petits garçons, ça l'est moins aux filles. On leur demande davantage d'être sages, de parler pas trop fort, de pas se salir, de pas salir leur jolie robe. Et donc, ce qui fait que ça a un certain impact déjà dans la cour de récréation, parce qu'on voit finalement que les petites filles vont choisir des jeux qui ne vont pas prendre trop d'espace, des jeux qui vont limiter le fait qu'elles peuvent tomber ou que... Et donc, d'emblée, finalement, on va voir qu'il existe une égalité dans la cour de récréation. Alors que les garçons vont tomber, vont se faire des bleus, vont se relever, vont courir partout, peu importe, mais ils vont avoir finalement ce courage. Et donc, effectivement, je pense que c'est une qualité qu'il faut qu'on enseigne autant aux petites filles qu'aux petits garçons.
Donc, une responsabilité des parents et puis aussi... pas dans le champ de la
responsabilité, totalement des parents.
Ouais, totalement des parents. Et moi, je m'intéresse aussi à la littérature jeunesse. Alors, je ne sais pas si dans tes recherches autour de tout ce que tu apportes dans Les Glorieuses, tu regardes un peu ça. Et c'est vrai
on
que...
On a conseillé, d'ailleurs.
C'est quasiment un acte un peu militant d'aller trouver les livres pour enfants, les histoires qu'on raconte aux enfants, qui sortent des clichés. Moi, je me souviens très bien d'un bouquin que ma mère m'avait offert pour ma fille, qui s'appelait Bijoux casse-cou. Et justement, c'était une petite fille dont les parents voulaient qu'elle soit dans un écrin de soie, dont un prince la sortirait, patati patata. Alors que la petite fille, elle n'a qu'une envie, c'est de faire les pires bêtises, de tomber, d'avoir des trucs cassés, de se relever. Enfin, voilà, et ça, c'est ça. Il faut le chercher, ce livre-là.
Il faut le chercher. Et après, même au-delà de ça, c'est chercher des bouquins qui enseignent aux filles à être fières de ce qu'elles sont. Mm-hmm. C'est, il me semble que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, c'est Mrs. Roots, qui est une militante afro-féministe, notamment très active sur les réseaux sociaux, qui a publié un livre il n'y a pas longtemps qui montre, ou en tout cas qui transmet ce sentiment de fierté aux petites filles noires. Mmh. Et donc, effectivement, je pense que c'est extrêmement important d'avoir une littérature consacrée à la jeunesse sur ces notions de fierté, ces notions d'acception et de courage aussi. Effectivement, nous, à mon avis, on a eu énormément de princesses et qui étaient secourues par des princes charmants qui étaient tous grands, blancs et qui permettaient aux femmes d'être sauvées. Et l'idée, c'est un peu de renouveler le genre. Et ça, c'est d'un point de vue culturel et c'est effectivement très important. Mais c'est aussi très important d'un point de vue législatif, en fait. Par exemple, le fait qu'en France, le congé paternité soit de 11 jours est très problématique pour créer une société égalitaire. Comment... Alors, en plus, il y a plusieurs problématiques par rapport à ça. En 11 jours, c'est juste impossible. Et puis après, les pères sont complètement épuisés parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Et puis la journée, ils doivent travailler. Et au-delà de ça, c'est ce qu'on m'a appris récemment, c'est que les pères avaient tendance à ne pas prendre ce congé paternité juste après la naissance de l'enfant. Ils avaient tendance à prendre ce congé paternité en même temps que les grandes vacances ou alors que d'autres vacances qui sont déjà prévues. Et puis finalement, on se retrouvait avec des vacances prolongées, quelques mois après que le bébé soit né. Et donc, il y avait déjà eu un lien très fort qui avait été créé avec la personne qui le nourrissait et qui changeait ses couches, finalement. Donc voilà, et je pense que le fait d'allonger le congé paternité et qui dure aussi longtemps que le congé post-maternité va changer considérablement les choses dans les couples.
Il faut qu'on
y travaille, quoi. Là, ça n'a pas l'air d'être la priorité du gouvernement actuel, malheureusement. Mais il faut que les groupes féministes se battent pour ce type de choses.
J'aimerais je l'évoquais rapidement tout à l'heure, la notion de féminisme intersectionnel. Parce que c'est vrai que ça... Enfin, moi, j'ai le sentiment que cette expression a beaucoup émergé ces derniers mois, ces dernières années, mais qu'elle n'est pas forcément appropriée par le plus grand nombre. Donc, j'aimerais que tu en dises quelques mots. Et justement, peut-être, qu'est-ce que ça a changé aussi d'apporter cette nouvelle dimension au combat féministe?
Alors, ça date d'il y a plus longtemps, quand même. Ça a été créé dans les années 80 ou fin 70, si je ne me trompe pas. Le féminisme intersectionnel, c'est le fait de prendre en considération que des femmes ont des doubles discriminations, en fait. À la fois, ce sont des femmes, ou des triples discriminations, d'ailleurs. Mais en plus, elles font partie d'une religion, d'un groupe dominé, d'une religion qui n'est pas la plus majoritaire. Elles ne sont pas blanches, elles font partie d'un certain milieu social qui n'est pas forcément privilégié. Et en fait, le féminisme intersectionnel, c'est juste le fait de prendre en considération toutes les femmes, quoi. C'est, jusqu'à présent, le gros problème du féminisme, c'est que finalement, ça représentait un certain type de féminisme. Et donc, finalement, les femmes qui avaient la possibilité d'avoir une certaine audience médiatique et qui avaient tendance aussi à parler au nom de toutes les femmes. Et ça, c'est très problématique. On peut pas parler, une femme ne peut pas parler au nom de toutes les femmes. Et un des de manière de respecter finalement ces féminismes-là, c'est le fait de tendre le micro. C'est la super fondatrice du blog Muslim Girl qui ouais. parle de ça, c'est « You have to pass the mic ». Il faut vraiment passer le micro aux femmes qui vivent des choses que nous, on ne vit pas finalement. Mm-hmm. Ça va être la seule manière de légitimer leur combat.
Donc, la question que je me pose, oui, c'est dans 33 ans, justement, est-ce qu'on aura su les formats médiatiques de cette société à venir, est-ce qu'elle aura créé ces espaces aussi pour qu'on entende, pour qu'il y ait une expression et donc une réponse sociétale qui vient en retour?
Alors, je ne sais pas, je ne peux pas donner la réponse à 100%, mais en tout cas, je suis extrêmement positive et optimiste sur cette question-là, parce que je vois qu'il y a un certain nombre d'outils ces dernières années qui ont permis finalement d'accéder à ce type de choses. Déjà Twitter, formidable quoi. Il y a une communauté, par exemple afro-féministe francophone et de femmes vivant en France sur Twitter qui est formidable, qui est extrêmement active et qui a trouvé via ce réseau social une manière finalement d'être entendue sans devoir passer par les canaux classiques. Et après, je vois aussi qu'il y a un certain nombre de femmes dans des rédactions qui sont elles-mêmes très sensibilisées à la cause du féminisme intersectionnel et donc du coup qui vont de plus en plus naturellement vers ces femmes-là. On le voit très bien dans les articles aujourd'hui sur le féminisme. Ben, on n'entend plus uniquement les féministes blanches. Et heureusement, quoi, parce que ça représente une certaine catégorie de la population et un certain féminisme. Et il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants, voire plus intéressants d'ailleurs. Et c'est en ça que je suis très très optimiste, le fait qu'il y ait de plus en plus de journalistes femmes qui ne soient pas blanches, qui soient racisées, c'est très très positif. Et c'est comme ça qu'on va y arriver finalement.
D'accord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui aussi des liens entre les féminismes, les mouvements féministes en Europe? Est-ce que justement, toi, tu peux aller voir, rencontrer des femmes allemandes, italiennes, pour voir aussi quels sont les outils ou quels sont leurs leviers d'action? Est-ce qu'il y a de ces connexions comme ça en réseau?
Ouais, mais même au niveau mondial, en fait. Nous, on a fait un partenariat avec la Women's March, donc qui a été créée à Washington, mais qui a aujourd'hui des relais dans différents pays. Et en fait, on a créé avec elle un réseau international pour faire en sorte que nos sœurs dans chaque pays se fassent l'écho de nos combats et que nous, on se fasse l'écho de leurs combats. Pour finalement montrer que si jamais on touche à un cheveu d'une de nos sœurs dans un pays, c'est pas un groupe de féministes que vous allez avoir sur votre dos, c'est toutes les femmes du monde que vous allez avoir sur votre dos. Donc ça décuple notre puissance finalement de faire ce type de partenariat. Et en ça, oui, effectivement, il y a des réseaux qui se créent. Là, il y a un réseau qui s'est créé en Europe pour se battre pour la défense de l'avortement en Europe. Et effectivement, aujourd'hui, on a un nombre d'outils incroyables qui nous permettent d'avoir une lutte qui soit mondiale et qui soit globale.
Alors, pour achever cette conversation, Rebecca, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050.
Un vœu ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? J'espère que... Alors, je vais formuler un vœu qui va être extrêmement basique. On enseignera naturellement les luttes féministes dans le livre d'histoire en 2050. Pour que la génération suivante, 30 ans plus tard, ne se pose même pas la question de l'intérêt ou pas du féminisme. Ça serait une évidence.
Très bien. Ben merci beaucoup,
Rebecca. Merci, Rebecca.
qu'il était agréable, ce shoot de futur. Une seule résolution possible désormais, toutes et tous, féministes. Et n'hésitez pas à aller sur lesglorieuses.fr pour vous abonner à cette formidable newsletter. Sur les réseaux sociaux et pour que nous soyons toujours plus nombreux à rejoindre cette communauté tournée vers le futur, n'hésitez pas à partager largement cet épisode et tous les autres. Sur iTunes, évidemment, laissez-moi des commentaires et des étoiles, ça me ferait tellement plaisir. Hashtag 2050, le podcast, c'est terminé pour cette semaine, mais pas de manque possible. Je reviens avec une nouvelle dose de futur dès la semaine prochaine. D'ici là, soyons toujours curieux.